une école pour la vie. L'émission de Radio Grand-Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée et réalisée par
Corinne Vivier,
Lucie Amiot
et Jean Brouillou, votre serviteur.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette petite demi-heure. Nous allons dans un premier temps aller à l'école Notre-Dame de la Loupe, puis nous retrouverons Madame Banel, présidente départementale de l'Appel.
Aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous proposons d'aller à La Loupe, petite ville de notre département, à l'école Notre-Dame-des-Fleurs, où nous allons prendre un temps avec Madame Sylvie Pecel, la directrice, et Mélanie Thomas, qui est enseignante en classe de CE1, CE2. Bonjour Mélanie et Sylvie.
Bonjour.
Alors Sylvie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre école dont vous êtes la directrice ?
Oui, donc notre école compte 6 classes, 114 élèves, 7 enseignantes, une enseignante ASH qui vient une fois par semaine, 2 ASEM, une surveillante pour les accueils cantine et trajet à la cantine, mais aussi 2 AVS qui viennent prendre en charge les enfants en difficulté à l'intérieur des classes et en coopération avec les enseignantes.
Pour décrire cette école de la Loupe, sa particularité, est-ce que vous avez quelques mots ?
Petite école de 6 classes et qui peut être familiale, qui est dans une petite ville assez ouverte et qui propose à nos élèves aussi des activités, puisque nous avons des intervenants extérieurs en sport et nous avons des propositions par la municipalité de présentation. Et en juin, nous irons faire 2 après-midi au club de tennis offert par la mairie. On a aussi des contacts avec l'école de musique. L'école de musique est venue la semaine dernière pour faire une présentation des instruments et un petit concert pour les enfants. Donc tout était adapté et on a fini par un concert général dans la cour.
Entre deux averses.
Voilà, c'est ça. Mais on essaye de s'ouvrir sur l'extérieur.
Alors aujourd'hui, nous venons à votre rencontre pour parler d'un projet que nos auditeurs écouteront d'ici quelques minutes. Donc, je vais me tourner vers Mélanie Thomas, qui est enseignante en classe de CE1, CE2, qui va nous présenter ce projet.
La semaine de la presse et des médias a eu lieu du 22 au 27 mars dernier. Pendant cette semaine, les enfants sont devenus journalistes. Cette semaine a été divisée en plusieurs temps forts. Le premier temps fort a été la découverte de ce que sont les médias et la presse. Les enfants ont cité spontanément la télé comme source d'information, mais nous avons vu avec eux que la radio, les journaux papier et Internet fournissent aussi des informations. Le deuxième temps fort, ça a été la conférence de rédaction. C'est le moment où les élèves ont décidé de quoi ils allaient parler. Ensemble, les élèves ont réfléchi pour déterminer quel événement marquait cette semaine. Ils ont décidé de parler de la journée mondiale de la trisomie 21. Les élèves de CP et la classe de CE1 et CE2 ont ensuite, chacun de leur côté, dû se mettre d'accord sur un livre qu'ils avaient aimé. Ils ont dû chercher des arguments pour défendre leur choix. Le troisième temps fort, ça a été l'écriture des textes et s'entraîner ensuite à lire ces textes. Le quatrième temps fort, ensuite, ça a été l'enregistrement. Ça a été un moment qui les a assez intimidés.
Est-ce que vous les avez sentis à l'aise à ce moment-là ou intimidés, mais finalement la parole est...
Non, ils ont été très timides alors que c'est moi qui les ai enregistrés, donc ils ont l'habitude de me voir, mais le micro devant eux les a rendus très
muets.
Ça a été assez surprenant, le micro leur a fait un petit peu peur. Mais ça s'est bien passé malgré tout. Pour moi, c'était important que pour la semaine de la presse et des médias, on travaille sur ce thème-là. À l'heure où des milliers d'informations sont disponibles chaque jour à portée de main et où les enfants ont de plus en plus accès aux écrans, il est important de leur apprendre à avoir un esprit critique sur les informations qu'ils reçoivent. Donc après cette semaine, je pense qu'ils ont aujourd'hui une oreille avertie quand ils écoutent la radio. Ils écoutent d'une autre manière parce qu'ils savent le travail qu'il y a derrière.
Alors, est-ce qu'on peut parler des thématiques abordées? Par exemple, pourquoi la trisomie 21? Quel a été le support pour les faire réfléchir sur la trisomie 21?
Donc la journée de la trisomie 21 elle avait lieu le dimanche, juste avant la semaine de la presse et des médias. Donc l'appel avait proposé qu'on fasse un événement spécial. Et
alors l'appel, on peut peut-être redire à nos auditeurs, c'est l'association
des parents d'élèves. Donc ils avaient proposé que chaque enfant mette une chaussette différente, c'est ce qui se fait au niveau national. Donc on l'a fait et on a aussi regardé des vidéos qui expliquent ce que c'est la trisomie 21. Donc ensuite avec leurs mots, ils ont dû m'expliquer ce qu'ils avaient compris. Et puis qu'après, eux-mêmes écrivent un petit texte pour expliquer ce que ça voulait dire la trisomie 21. Et c'était l'occasion aussi d'expliquer que les enfants, on est tous différents et qu'on n'a pas à juger les uns à ne pas... On n'a pas à se juger les uns les autres.
Et alors, après, sur les autres sujets?
Alors, les autres sujets, ensuite, il y a eu les enfants ont choisi deux livres. Nous, alors, tous les jours, après le quart d'heure de lecture où ils sont tout seuls, moi, je leur lis une histoire.
Alors, tous les jours, parce que c'est bien, visiblement, il y a un rituel. Oui. Donc, tous les jours,
Tous les jours, on lit une histoire, parce qu'ils aiment ça, et moi, j'adore leur lire des histoires aussi. Et donc, pour faire partager ce goût de la lecture, on a voulu faire un temps culture dans le journal. Et donc, on a choisi le livre qu'on a préféré. Donc, les enfants ont dû faire des propositions, ensuite, on a voté. Donc, on a pris le vote aussi, quand est-ce qu'on... On choisit, c'est celui qui a la majorité, donc c'est apprendre aussi à discuter. Puis si on n'est pas d'accord, il faut accepter quand même le choix de la majorité. Et donc nous, on a choisi Cornebidouille. Et donc après, dans le journal, vous allez entendre, ils lisent un extrait de Cornebidouille si vous ne connaissez pas.
Et pour votre classe,
Alors,
Sylvie?
Beaucoup d'oral, puisque ce sont des CP. Mais pareil, on lit aussi des histoires très régulièrement. Et on est parti de deux textes. On a vu le vote, on a voté, on a raconté, après avoir voté, on a raconté l'histoire. Alors on a travaillé beaucoup à l'oral, savoir remettre des faits du roman dans l'ordre du roman, dans la chronologie. Donc tout ça vraiment à l'oral par rapport aux CE1 qui écrivent plus que nous les CP. Et ensuite on a appris à résumer un livre qu'on a lu, et il a fallu quelques séances quand même pour arriver à concentrer, parce que c'était toujours très long, donc ils ont appris à dire l'essentiel de leur histoire, et ensuite ils se sont entraînés. Ce qui était intéressant aussi, c'était le choix du titre de notre journal. Parce qu'en fin de compte, non seulement on a vu le vote, mais aussi on a vu la confrontation de deux classes. Au départ, les deux classes avaient les mêmes titres. On a fait un premier vote dans chaque classe. On a réuni les deux votes, on a pris les titres en commun et on a revoté sur les deuxièmes. Donc on a eu du temps pour le faire et savoir que les autres aussi... peuvent avoir une opinion, et en CP c'est pas évident quoi, et ça ils ont aimé parce qu'ils me disaient mais vous, maîtresse, ils vont choisir quoi eux? Et donc c'est à la suite quand les retours étaient faits où ça redonnait une
alors le journal s'appelle donc
le journal des CP CE1 CE2.
Le journal des CP CE1 CE2.
Alors et puis il y avait un troisième sujet.
Et le troisième sujet, c'est on termine par une blague. Alors pour terminer sur un ton un peu plus léger, on a terminé par une blague. Alors la blague, c'est pareil, chacun... le lundi, on a lancé l'idée en conférence de rédaction qu'on terminerait par une blague. Donc il a fallu chercher une blague. Donc ils sont allés à la maison en demandant des idées de blagues. Et puis chacun a dit sa blague. Et pareil, on a voté pour la meilleure blague. Et, donc je ne la dis pas maintenant,
Non.
Vous arrivez à la fin.
Une conclusion pour d'abord donner les réactions des enfants après cette expérience. Est-ce que ça leur a donné envie de recommencer, de poursuivre? Et puis vous, pédagogiquement, qu'est-ce que vous en retirez?
Alors, les enfants ont apprécié. Ça a été un peu difficile pour eux de s'entendre. Ils n'avaient pas l'habitude. Donc, il y en a qui ont rigolé en s'entendant, d'autres qui étaient un peu timides, enfin, surpris d'entendre leur voix. Mais ils ont bien aimé parce que donc c'est un projet qu'on a mené sur toute la semaine. C'est eux qui l'ont fait aussi. C'est pas moi ni Madame Pessel qui leur avons dit ce qu'il fallait dire. Ils ont vraiment travaillé leur texte. Donc, c'est leur journal. Et donc c'était intéressant, donc ils ont travaillé sur l'écriture, ils ont travaillé sur leur diction, il fallait être compréhensible et utiliser un vocabulaire adapté à un journal, donc pas de vocabulaire familier. Donc c'est un bon travail pour travailler sur l'écriture, l'oral. Et puis pour travailler sur les médias, on a aussi en parallèle de ça lu beaucoup de journaux, de magazines. J'espère que maintenant, ils regarderont les journaux d'une autre manière. C'est l'objectif.
En CP, pareil, la même chose, mais des enfants qui ont demandé pendant la semaine s'ils pouvaient ramener à la maison les magazines qu'on avait à notre disposition, puisque Madame Thomas était allée à la bibliothèque chercher tout un éventail. Et suivant le thème, par exemple, enfin, je me souviens d'une enfant qui aime le cheval, et il y avait un magazine sur le cheval, et elle a demandé si elle pouvait prendre à la maison pour le regarder tranquillement, et je soupçonne l'envie d'un abonnement. Mmh. Donc je crois qu'on a suscité ce petit goût-là à la lecture. Et pour les CP, en méthode de travail, sur la lecture orale, il devait être compris tout le monde. Donc c'est vrai qu'en début de... quand on devient lecteur, devant un micro, c'était difficile. Mais ils l'ont fait avec plaisir et ils étaient fiers d'eux. Et quand les parents, certains parents nous ont fait des retours, papa et maman étaient contents de nous entendre. Et ça, c'est une satisfaction et un plaisir pour nous d'entendre et de voir que ces enfants sont heureux d'avoir fait ce petit temps.
Une expérience que vous aurez envie de poursuivre?
Ah bien, pour moi, bien sûr, oui.
Madame Sylvie Pessel et Madame Mélanie Thomas, merci beaucoup. Maintenant, il faut inviter les auditeurs à ouvrir grand leurs oreilles pour écouter le journal des CP, CE1, CE2.
Je m'appelle Marouane.
Je m'appelle Thibaut.
Je m'appelle Anaïs.
Je m'appelle Léo et j'ai 9 ans.
Je m'appelle Emery.
Je m'appelle Kim.
Bonjour, je m'appelle Léo et j'ai 7 ans.
Bonjour, je m'appelle Romy et j'ai bientôt 8 ans.
Je m'appelle Priscilla.
Je m'appelle Grégoire.
Je m'appelle Maïline et j'ai 8 ans.
Je m'appelle Charlize Coppola et j'ai 7 ans.
Je m'appelle Nolan.
Je m'appelle Maxence et j'ai 7 ans.
Je m'appelle Yelena.
Je m'appelle Tristan Hugna et j'ai 7 ans.
Je m'appelle Luca et j'ai 7 ans.
Je m'appelle Gianni et j'ai 7 ans.
Je m'appelle Marina et j'ai 8 ans.
Je m'appelle Sam, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Léo, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Rowan, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Roman, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Ryan, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Augustin Siméo et je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Didier et je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Inès, je suis dans la classe des CP.
Bonjour, je m'appelle je suis en CP.
Bonjour, je suis Soane Granville et je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle Medine El Kachimi, je suis en CP.
Bonjour, je m'appelle David et je suis dans la classe de CP.
Bonjour, je m'appelle Léane, je suis dans la classe de CP.
Bonjour, je m'appelle Ethan et je suis en CP.
Je m'appelle Savannah, je suis en CP, j'ai 6 ans.
Le journal des CP, c'est le 1 et notre dernier frère.
Le journal des CP et CE de Notre-Dame des Fleurs. Cette semaine, nous vous amenons dans notre école de Notre-Dame des Fleurs.
Les CP et les CE1 et CE2 ont préparé un journal radio. Nous allons d'abord parler de la journée de la trisomie 21. Puis nous allons vous présenter deux livres que nous avons beaucoup aimés. Enfin, nous finirons par une blague.
Le lendemain de la journée de la trisomie 21, nous avons porté des chaussettes dépareillées. La maîtresse a pris une photo de tous nos pieds.
Nous avons regardé une vidéo pour comprendre ce qu'est la trisomie 21.
Ce n'est pas une maladie, c'est une anomalie au niveau des chromosomes. Il y a un chromosome de plus.
Cela provoque des anomalies au cœur et le cerveau se développe moins vite.
Les personnes porteuses de la trisomie 21 vont voir des kinés et des orthophonistes.
Cette année, nous avons beaucoup aimé Cornebidouille.
Elle a des gros seins et elle est moche.
Elle vit dans les toilettes et a un gros derrière.
C'était drôle.
Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre.
Et maintenant, mon petit calunette, est-ce que je t'ai fait peur?
Non, mais vous sentez les gruyères.
Comment?
Et le vieux camembert.
Comment?
Les chaussettes de mon père.
Comment?
Le petit garçon Pierre lui dit, plein d'insultes drôles. Oiseau déplumé, camembert, vieille chaussette, gros ver de terre.
J'aimais quand elle disait comment.
J'aimais quand le grand-père dit à Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas.
La classe de CP va vous parler de
la moufle.
C'est la côte traditionnelle russe.
Une fois, l'hiver fut plus froid que tous les hivers. Et le jour le plus froid de cet hiver, un homme perdit sa moufle gauche.
Elle tomba dans la neige, l'homme ne remarqua rien et il s'éloigna, laissant là sa moufle rouge.
Une souris qui grelottait aperçut la moufle et s'en mitoufla, puis arriva une grenouille, un lapin et un renard, tous en peur que la moufle se déchire.
Le loup vint les rejoindre, puis un ours qui fit se déchirer la moufle.
Le lendemain, le bûcheron qui passait par là ramassa les morceaux pour que son épouse lui recouse.
Pourquoi a-t-on aimé cette histoire ?
Dans la moufle rentrent les animaux, du plus petit au plus grand, mais c'est un animal minuscule qui déchire la moufle. Les plus grands ne sont pas les plus forts.
J'ai une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, une école pour la vie. En deuxième partie de notre émission, Lucie, nous allons avoir un entretien téléphonique avec Madame Audrey Vanel.
Alors, bonjour Madame Vanel.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'appel de
oui,
notre
départemental.
D'accord. Et est-ce que vous êtes présidente depuis longtemps?
Alors oui, je suis présidente, j'ai eu plusieurs mandats successifs, donc ça fait déjà à peu près, ça doit être ma troisième année en tant que présidente départementale. Mais j'ai d'abord œuvré en tant que présidente en fait, d'appel d'établissement au sein de mon institut, où sont scolarisés mes enfants.
Madame Vanel, vous pourriez nous dire ce qu'est l'appel?
Alors, l'appel, c'est la plus importante association nationale de parents d'élèves, qui regroupe à peu près, sur le plan national, 950 adhérents. Donc, en fait, le mouvement des appels représente les familles dans toute la diversité de leur identité sociale, culturelle et politique, et philosophique ou religieuse, qui ont vraiment choisi librement de confier finalement leur enfant à un établissement catholique.
Et alors, l'appel, que signifient ces lettres? Parce qu'on peut entendre l'appel comme un appel.
Alors, l'appel, en fait, l'acronyme, donc APEL, parce que bon, il a beaucoup évolué avec le temps. En fait, c'est vraiment l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre.
D'accord. Donc, en fait, ce sont les parents d'élèves qui adhèrent à votre association par le biais de quoi? D'une cotisation?
Oui, tout à fait. En fait, du coup, on est par le biais d'une cotisation via les frais de scolarité au sein des établissements.
D'accord. Et quand on est président de l'appel de l'Eure-et-Loir, par exemple, est-ce qu'il faut avoir des enfants scolarisés dans les établissements?
Alors oui, quand on a ce qu'on appelle, en fait, moi je suis élue donc, par un conseil d'administration. Donc pour avoir les postes d'élus, que ce soit au niveau départemental, académique ou d'établissement, il faut avoir des enfants dans l'enseignement catholique, encore scolarisés.
D'accord, très bien. Que ce soit même dans le supérieur, ça pourrait aussi être le cas.
Oui, oui, tout à fait. Ça va vraiment de la maternelle jusqu'au lycée, voire plus, parce qu'on a certains établissements, nous, au sein du département, qui vont jusqu'au bac plus 2. Donc,
Et du coup, vous m'avez parlé d'un bureau. Votre bureau, il est composé de, j'imagine, de personnes que vous avez choisies. Comment ça s'est passé?
Alors, au niveau des conseils d'administration, à n'importe quel échelon du mouvement, ce sont des personnes qui sont élues. Tout simplement, c'est un conseil d'administration classique. On est vraiment, on est régi comme les associations classiques. Donc, en fait, on élit il y a donc des adhérents, hein, donc, qui élisent donc le conseil d'administration, qui ensuite, lui, le conseil d'administration, élit un bureau, dont, donc, président, trésorier, secrétaire, et puis, des fois, vice-président en fonction, des missions qu'on va mener, au cours de l'année.
Et je suis curieuse, quelles sont les actions que vous menez dans les établissements?
Alors, au niveau des établissements, donc en fait, nous déjà, on accompagne nos 26 appels d'établissements, parce qu'en fait, il y a 26 appels d'établissements qui sont répartis sur tout le département. Donc, 24 écoles, 9 collèges et 3 lycées. Donc, en fonction des niveaux, j'ai envie de dire, les actions ne sont pas les mêmes, mais on est vraiment, nous, en soutien de nos appels d'établissement pour qu'ils puissent remplir pleinement leur rôle de président et d'équipe sur place, en les aidant un maximum dans la partie financière, parce que parfois, ils ont besoin d'un coup de pouce financier ou un prêt matériel ou de la formation, ou dans le cadre des collèges et lycées, nous avons donc un ICF, donc... L'ICF, c'est donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça... Alors, en fait, l'ICF, c'est tout ce qui a trait à l'orientation. J'essaie de vous trouver l'acronyme exact. Donc, en fait, l'ICF, c'est ce qu'on appelle le service en fait, d'information et conseil aux familles. Donc, c'est un service qui est présent donc, sur notre département, qui a vraiment voulu donc, d'initier et de soutenir la mise en place d'actions autour de l'orientation, la découverte des filières et des métiers et le rapprochement avec le monde professionnel. Ça, c'est tout nouveau comme service qui a été mis en place. Et aussi accompagner les parents qui ont un enfant à besoin éducatif particulier.
D'accord.
Ce qui veut dire que si j'ai besoin de renseignements ou si mon enfant se pose des questions sur son orientation, est-ce que je peux vous appeler pour avoir des conseils?
Oui, effectivement, tout ce qui est attrait vraiment à l'éducation, nous sommes là pour ça. Donc, nous avons quelqu'un qui est dédié à ça chez nous. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez poser les questions et on essaie d'y répondre.
Du coup, je suis curieuse, mais il y a des partenariats créés entre les établissements, par exemple, les professeurs documentalistes des établissements et les parents d'élèves? Est-ce qu'il y a des ponts qui se font?
Oui, alors en fait, nous, au niveau du département, on a dans chaque établissement des sortes de référents, en fait, ICF, qui sont directement sur place et en lien avec les appels d'établissement, qui nous relaient les informations, qui nous interrogent aussi, qu'on accompagne, que ce soit en formation ou en information, hein, on donne aussi pas mal d'informations et on forme aussi beaucoup. Donc, il y a vraiment un pont qui est lié. Nous, on fait redescendre, si vous voulez, toutes les informations du national et de l'académie, qu'on redescend au niveau de nos appels d'établissement et via leurs référents qui sont leurs référents ICF.
Vous avez aussi, je suppose, une ou des thématiques nationales hein, proposées par l'appel national. Est-ce que, alors peut-être que cette année était très particulière avec la Covid, mais est-ce que vous savez déjà les grands thèmes peut-être pour l'année prochaine?
Les grands thèmes, c'est-à-dire parce que...
En fait, les préoccupations éducatives de l'appel national pour accompagner les parents dans leur service, dans leur travail d'éducateur?
Alors effectivement, au niveau de l'appel national, donc qui est en contact régulier avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a un bureau aussi qui est dirigé par un conseil d'administration, donc qui est appelé bureau national, qui gère vraiment toutes ces questions, on va dire un peu plus en direct dans le débat national, on va dire ça comme ça, parce que eux-mêmes, c'est vraiment le bureau national qui participe au groupe de travail. Vraiment, c'est à notre échelle, on a les retombées, mais on n'a pas les grandes lignes. C'est parce que nous, on ne participe pas au débat, en fait. Hein. C'est vraiment l'appel national, c'est le conseil d'administration, c'est le bureau national qui gère ça.
D'accord. Et alors, du coup, ma question, quand vous dites que vous avez des équipes locales, c'est-à-dire pour chaque établissement, évidemment, il y a des représentants des parents, quelle est la fréquence de vos rencontres ? Cette année, c'était peut-être particulier, mais peut-être que dans l'année, vous savez déjà les dates que vous allez mettre en place pour rencontrer les parents.
Oui, oui, non, en fait, on essaie d'avoir un contact régulier et privilégié avec nos appels d'établissement. Donc là, cette année, on s'est adapté. Donc, on a fait beaucoup de visio. Généralement, on en fait une par mois où on réunit donc tous les présidents d'appels d'établissement pour prendre un peu des nouvelles, voir ce qui s'y passe. Et puis, voilà, on essaie de créer du lien. On fait une formation une fois par an aussi pour tous les conseils d'administration des appels d'établissement, notamment ceux qui viennent de prendre leur fonction de président, de trésorier, de secrétaire, pour qu'ils puissent avoir vraiment un peu toutes les grandes lignes, en tout cas, des fonctions auxquelles ils se sont mises. Et donc, voilà, nous, notre fréquence, c'est vraiment une par mois. Et on essaie l'objectif de l'année prochaine, en fonction de comment ça va se passer au niveau des restrictions sanitaires, c'est d'être un peu plus, encore plus présent pour nos appels d'établissement, en faisant des points en plus trimestriels, donc une rencontre vraiment physique avec un temps fort avec tous nos présidents d'appel. Et puis, voilà un peu comment on fonctionne, on va dire, au quotidien. Après, bien sûr, téléphone et mail. On est vraiment à l'écoute téléphone et mail aussi.
Donc, l'appel départemental, c'est une permanence aussi qu'on peut peut-être indiquer aux auditeurs.
Une permanente, Madame Catherine Aguès, qui, donc, en fait, c'est un point très, très fort pour nous, élus, parce qu'on se repose beaucoup sur elle, et c'est surtout qu'en fait, on a quelqu'un de physique qui peut répondre aux questions, en fait, de tout parent qui a besoin parfois d'une réponse et que nous, on n'est pas forcément disponible. Donc, elle est à la visitation, physiquement à la visitation. Et après, elle est joignable, évidemment, par mail et par téléphone les mardis, jeudis et vendredis.
Pour conclure, Madame Vanel, est-ce que vous avez des envies ou des projets pour l'année prochaine ?
Elle a plein de projets, hein, pouvoir essayer de mettre tout ce qu'on n'a pas pu mettre en place en 2021, donc relancer toutes nos conférences, nos ateliers, nos temps forts avec tous nos partenaires et puis aussi tous nos présidents d'appel. Ça, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir remettre en place assez rapidement. Là, on a quand même voulu le faire cette année, malgré le contexte. Donc, le 1er juin, on va avoir notre conférence. On met en place une conférence. Là, on s'est dit, bon, on tente le tout pour le tout. Hein. On s'est dit, on verra bien. Donc, on organise une conférence, en fait, l'enjeu d'un oral, justement, dans le cadre, en fait, de l'ICF. De l'école à la vie professionnelle qu'on offre en fait à toutes les familles en fait du département, une conférence donc qui sera en mode visio à 100%. On s'est dit on le fait quand même cette année.
Très bien, bravo pour vos projets. Et puis c'est vrai que les parents sont les principaux éducateurs d'établissement. Bravo à vous. Et n'oublions pas aussi le côté pastoral que vous portez.
Oui. Qu'on espère développer justement en 2022, c'est aussi quelque chose, parce qu'on est quand même un gros département, assez étendu, et on aimerait bien développer encore plus vraiment le réseau pastoral. parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais bah, on manque de moyens, et, enfin de moyens humains. Et donc, ce n'est pas forcément facile de pouvoir développer ce pan-là, mais on aimerait beaucoup le faire.
Très bien, ben, merci beaucoup.
Madame Vanel, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour présenter l'année de l'appel départemental en 2021-2022. Merci beaucoup.
Merci de votre engagement.
Merci à vous.
Une école pour la vie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt sur les antennes de Radio Grand Ciel. Au revoir.